L'invité.
Vous vous souvenez peut-être du CETA, ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, signé fin 2016 en Europe. Eh bien, il est entré en application provisoire le 21 septembre, mais n'a pas encore été voté en France. Alors, le collectif national Stop CETA a lancé une opération en direction des décideurs, des influenceurs et des parlementaires pour qu'ils utilisent la possibilité qui leur est offerte par la loi d'imposer un référendum sur le traité. Un référendum permettrait de passer au-dessus de l'Assemblée. Pour mieux comprendre tous ces enjeux, Dominique Pommier et Raymond Marion sont avec nous cette semaine. Ils sont membres du collectif Stop CETA Norisère. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors le CETA est un traité qui prévoit grosso modo la suppression des droits de douane pour beaucoup de produits, presque tous les produits, à part certains produits agricoles. L'accord fournit aussi une protection à 143 produits européens d'origine géographique spécifique. Malgré tout, il y a beaucoup de détracteurs. C'est quoi le problème ?
Quand on parle de traité de libre-échange, les gens comprennent effectivement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire l'abolition des droits de douane. Alors, l'abolition des droits de douane, qui sont faibles en moyenne entre l'Union européenne et l'Amérique du Nord, mais qui, dans certains domaines, sont quand même assez élevés. Raymond en parlera tout à l'heure, notamment dans le secteur de l'agriculture, et ce n'est pas inutile. Mais de toute façon, ces traités de nouveau type, comme le TAFTA, le CETA, enfin tous ceux qui sont signés actuellement, vont bien au-delà d'une simple abolition des droits de douane. Ils veulent surtout à harmoniser les réglementations dans le domaine sanitaire, social, écologique, et les harmoniser surtout à la base, parce qu'ils considèrent ces réglementations comme un frein aux échanges, au même titre que les droits de douane.
Beaucoup ne connaissent même pas forcément trop ce traité transatlantique. Pourquoi ?
Le gros problème, c'est le béaba un petit peu de la problématique, c'est que ces traités sont négociés dans le plus grand secret. Alors petit à petit, il y a des fuites. Petit à petit, les associations, les ONG, les organisations professionnelles ont des échos. Et puis ça passe progressivement dans le public. Mais le problème, il est là, c'est que par exemple pour le TAFTA, mais c'est vrai pour tous les traités, il faut savoir qu'il y en a des milliers qui ont déjà été signés. Et il y en a des centaines de plus en plus importants qui sont en préparation. Le CETA, entre autres, c'est la première fois que ça va couvrir un grand pays développé du Nord. Alors qu'avant, c'était surtout avec des pays du Sud, voilà. Donc, y compris nos députés, c'est ça le problème. Et on avait vu déjà, on avait rencontré l'ancienne députée de notre circonscription. Et puis là maintenant, on a rencontré déjà certains députés. Et on attend pour la rencontre de nos députés de la 10e circonscription, Marjolaine Meunier-Millefer. Ils sont en général très très peu informés, ou pas du tout, quoi. Ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils ne sont vraiment pas informés. Le premier point important, c'est de les sensibiliser en leur disant, avant même la discussion concernant les aspects techniques, quels vont être les avantages et les inconvénients, c'est de les inciter vraiment à plonger dans le dossier. Parce que ces traités vont passer avant nos lois, avant les lois européennes. On pense que là, il y a priorité de priorité, surtout que la ratification doit intervenir pour ce CETA. Entre autres, il y en a d'autres en préparation, on y reviendra, doit intervenir à l'automne, on ne sait pas exactement la date. Il y a un gros problème démocratique et en amont, c'est-à-dire au départ des négociations, lesquelles négociations sont menées essentiellement, voire même exclusivement, par les multinationales. C'est elles qui poussent très très fort, enfin certaines multinationales, disons la plupart, quoi, hein, parce qu'il y a des marchés à gagner dans les deux sens. Et par contre, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de PME, de petites et moyennes entreprises, y compris agricoles, c'est-à-dire beaucoup d'exploitations agricoles. Et là, pratiquement la plupart des organisations professionnelles sur le plan agricole, les différents syndicats, pour une fois, sont quand même très très réservés et craignent le pire.
Pourquoi est-ce que ça peut être un problème que ce CETA passe au-dessus des lois nationales, qu'il soit supranational finalement ?
S'il y a des particularités dans les pays, ou des protections particulières pour l'environnement, pour la santé, etc. On sait bien qu'en Europe, c'est très diversifié déjà les réglementations, même si progressivement l'Europe a des réglementations unitaires, j'allais dire. Mais le problème, c'est que les normes de protection de la santé, de l'environnement, de la nourriture, etc., sont très différentes d'un pays à l'autre. Alors parfois, ce sont les autres pays comme le Canada ou les États-Unis qui ont des normes restrictives. Alors c'est parfois du protectionnisme déguisé, hein. Mais parfois, nous par exemple, la grosse différence entre l'Europe et l'Amérique du Nord, hein, c'est par exemple le principe de précaution qui est complètement rejeté. Enfin, les multinationales font tout pour déglinguer ce principe de précaution qui effectivement freine un certain nombre d'investissements, un certain nombre de productions. Pour faire très court, pour parler de la chimie, hein, de tous les produits, il y a des dizaines de milliers de molécules chimiques qui posent de plus en plus de problèmes. On découvre aujourd'hui, après 20, 30, 40 ans, qu'un certain nombre de produits sont dangereux pour la santé, sur le plan hormonal, sur le plan reproductif, etc. Il y a de très gros écarts et donc on craint le pire, que tous ces traités tirent vers le bas. Au lieu d'améliorer la protection des citoyens, eh bien au contraire, le recul, quoi.
Une fois qu'une norme, par exemple environnementale, aura été revue à la baisse, une fois que le traité sera signé, il ne sera plus possible de revenir en arrière pour quelques gouvernements ultérieurs qui pourraient arriver, à moins de mettre d'accord les 28 États de l'Union européenne.
Et encore. C'est ce qu'on appelle l'effet cliquet. Hein. Depuis l'OMC, depuis l'Organisation mondiale du commerce, hein, qui date de 1994, date, on y reviendra aussi, qui correspond à un an près à l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, qui a 20 ans d'âge, donc plus de 20 ans maintenant. On a du recul, on a maintenant de l'expérience, on a un certain nombre de traités, on voit ce que ça a produit. En plus et en moins, mais en général c'est plutôt en moins. Donc voilà, c'est pour ça que ça inquiète nombre d'associations. Vous avez dit tout à l'heure, c'était bien un collectif Nord-Isère, de même qu'il y a un collectif national, des grandes ONG sur le Nord-Isère, entre autres, eh bien, ATTAC, Artisans du Monde, le CCFD Terre Solidaire, Comité catholique contre la faim et pour le développement, etc., etc. Enfin, il y a un certain nombre d'associations et d'organisations. Et là, on s'aperçoit de plus en plus que les organisations professionnelles, dont les PME, alors on entend plus parler, c'est curieusement, des organisations de la contestation en Allemagne, en Autriche, en Belgique qu'en France. Mais on a quand même des échos sur ces grandes organisations de petites et moyennes entreprises et agricoles, quoi.
Ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on parle de ce CETA. Pourquoi est-ce que cette mobilisation arrive particulièrement maintenant ?
Le problème, c'est que ça a été gardé secret ou semi-secret pendant très longtemps, que les médias n'ont pas pris en compte parce que c'était pas très porteur sur le plan communication. C'était pas du sensationnel, hein, comme on dit, hein. C'était pas des faits divers. Et c'était un peu compliqué au départ à comprendre, surtout qu'il y a un grand flou dans les termes qui sont utilisés. Personne n'avait notion de l'importance de ces traités. Et alors ça a commencé par le TAFTA il y a maintenant 4 ans déjà qu'on travaille dessus. Le TAFTA, c'était avec les États-Unis, hein, qui a été arrêté par...
Qui a été refusé, celui-là, par la France.
Voilà, qui a été arrêté, mais on ne se fait pas d'illusion, ça va revenir. Et en plus, entre le CETA avec le Canada et le TAFTA avec les États-Unis, la porosité entre les deux pays est énorme. Certains se disent, c'est pas la peine de signer un accord avec les États-Unis. De toute façon, les multinationales passeront par le Canada pour venir, j'allais dire, un petit peu envahir l'Europe, entre guillemets, quoi.
D'ailleurs, sur les sites du gouvernement canadien, ils ne s'en cachent pas et ils disent, venez au Canada, c'est la porte d'entrée sur le marché européen.
C'est d'ailleurs un des gros atouts mis en avant par le gouvernement, c'est de pouvoir asseoir la place de l'Union européenne sur le marché mondial. C'est pas important, finalement ?
Dans toutes ces affaires-là, il y aura obligatoirement des gagnants, hein, et des perdants. Alors le problème, c'est qu'on voit qui pousse pour signer ces accords. C'est d'abord les grosses multinationales européennes, les banquiers, la chimie, l'agroalimentaire, l'automobile, etc. Et de l'autre côté, ce qu'on s'aperçoit avec un autre traité qui est en cours de négociation, qu'on appelle le Mercosur, avec l'Amérique latine, avec les deux gros pays, l'Argentine et le Brésil, leaders mondiaux avec les États-Unis sur le plan agricole, hein, sur le plan de l'alimentation animale, des céréales, de la canne à sucre, etc., de l'élevage. Ils ont des fermes de centaines de milliers d'hectares, donc à côté, nous, on ne pourra pas tenir de toute façon. Donc on a l'impression aujourd'hui qu'entre autres, on sacrifie l'agriculture, ou du moins l'agriculture familiale, pour laisser faire les autres grands lobbies.
Et les emplois, du coup, qui devraient, en tout cas qui sont promis, vous y croyez pas trop, vous, finalement ?
Il y a eu un certain nombre d'études, dont une indépendante. Même la Commission européenne qui avait mené une étude, elle avait parlé de même pas 1% de progrès en termes d'emploi. Et en fait, rien n'est démontré là-dessus, parce qu'il y a tellement de facteurs variables. Et l'expérience qu'on a avec les autres traités dont on parlait déjà tout à l'heure, c'est que c'est négatif pour tout le monde. On craint vraiment le pire, parce que ça va développer le gros business, les grosses entreprises qui créent pratiquement plus d'emplois. Qui crée les emplois ? C'est les petites structures, les PME, qui sont souvent des sous-traitants de multinationales et qui, eux, sont aussi pris à la gorge souvent, sont traités comme des smicards, quoi, j'allais dire, pour faire simple. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Et c'est même pas un problème droite-gauche, à la limite, puisqu'on voit que les contestations divisent tous les partis, pratiquement, quoi, hein, parce qu'il y en a qui disent, oui, il faut développer le business mondial, etc. Ça va créer des emplois, et d'autres qui contestent complètement. Il n'y a pas eu d'étude d'impact, ce qu'on appelle une étude d'impact, c'est-à-dire de conséquences a priori possibles, positives et négatives, de ces traités, alors que c'était demandé par le Conseil économique et social en France et en Europe d'ailleurs, hein, où il y a des représentants des syndicats, etc. quoi.
On expliquait que la démarche qui est lancée par Stop CETA, donc le collectif national, vise à essayer de proposer un référendum. On va revenir un petit peu sur le calendrier d'adoption de ce texte, parce qu'on ne sait pas trop. Finalement, il a été signé, ratifié, c'est quoi la différence? Est-ce que vous pouvez peut-être, Dominique, par exemple, nous éclairer un petit peu sur ce calendrier d'adoption aujourd'hui?
Alors, il a été voté par le Parlement européen, mais les députés européens français, de toutes tendances confondues, ont voté majoritairement contre, mais enfin, au niveau du Parlement européen, il a été voté. Il a été donc adopté par la Commission et il a été mis en application provisoire en attendant qu'il soit ratifié par les 28 États de l'Union européenne. Ça, c'est aussi c'est une péripétie qui est intéressante, c'est qu'au départ, la Commission européenne aurait souhaité que finalement le vote du Parlement européen et son adoption par la Commission suffisent. Mais certains juristes ont pioché les traités et sont aperçus que la Commission européenne a le monopole sur les traités à caractère exclusivement commercial, mais si le traité n'est pas exclusivement commercial, les pays doivent se prononcer. Et c'est pour ça que le Parlement français, notamment, comme les autres parlements européens, se prononcera normalement, c'est annoncé par le gouvernement, dans le deuxième semestre 2018. Il commence en juillet. Donc, et comme souvent, quand on veut faire passer des mesures qui soient un peu pas trop populaires, on y fait passer en juillet-août. Donc, c'est pour ça que le collectif national Stop CETA a déclenché cette procédure qui est très particulière, qui permet à un nombre de 20%, je crois, des parlementaires, c'est-à-dire députés plus sénateurs, et ça ne fait pas un monde fou. Hein, ça fait
150 et 200 parlementaires sur les quelques 700 et quelques
qui sont
députés et sénateurs.
Et ils peuvent demander à ce moment-là au gouvernement de déclencher un référendum. Et à ce moment-là, ça arrêterait la procédure parlementaire. Le gouvernement devrait déclencher un référendum. Et à ce moment-là, il faudrait recueillir 4 ou 5 millions de signatures de citoyens pour que le référendum ait effectivement lieu et soit adopté. Et c'est dans cette démarche-là que se situe le collectif actuellement, essayer de convaincre le maximum de députés, de parlementaires, sénateurs, députés, à demander un référendum.
Et comment ça se passe alors? Comment est-ce que vous les abordez, tous ces députés, ces sénateurs? Qu'est-ce que vous leur dites?
Ah ben, on leur dit ce qu'on vient de vous dire depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas aperçus qu'en signant ce traité, ils allaient mettre à mal l'agriculture, notamment l'élevage, ils allaient mettre les PME et PMI, et que finalement, la population n'en tirerait pas un profit extraordinaire. Les multinationales, si, ça c'est sûr, puisqu'ils le veulent. Je crois qu'ils ne se rendent pas bien compte de ce dans quoi ils se sont lancés. Mais c'est normal, parce que depuis le traité de Lisbonne, c'est la Commission seule qui négocie les traités commerciaux. Donc elle n'est même pas obligée d'en référer au gouvernement, et c'est pour ça que, pour répondre à votre question tout à l'heure, on a mis tant de temps à s'en apercevoir, c'est parce que pendant 2 ans, ils ont négocié dans le plus grand secret, alors invoquant que justement il valait mieux négocier dans le secret pour arriver à sortir quelque chose en face de son partenaire, mais en réalité, c'est pas étonnant que les députés français ne soient pas très au courant actuellement quand on leur parle de ça. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent eux-mêmes. Ils disent « Ah oui, moi, je ne sais pas grand-chose sur ce traité ».
L'autre intérêt du référendum, c'est qu'enfin, il y aurait un débat public. Non seulement au niveau des élus, mais au niveau des médias, qui n'existent pratiquement pas. On en entend parler de temps en temps, ça commence à venir. Mais il n'y a pas de grande émission sur ces traités qui, on le répète, va concerner tous les secteurs, des bouleversements, avec effectivement des gagnants et beaucoup de petits perdants, j'allais dire, en nombre. Pour nous, ça devrait être quand même prioritaire, vu les impacts et les bouleversements à la fois professionnels et à la fois régionaux. Les petits territoires vont être une fois de plus laminés. Nous, on est dans une région encore, non seulement polyculture, mais c'est polyactivité, relativement riche. Hein, la région Rhône-Alpes est la deuxième région en termes de richesse en France. Mais par contre, il y a une très grande diversité et il y a des pans entiers. Moi, je connais beaucoup, puisque je suis agronome de formation, je connais beaucoup d'exploitations, petites ou moyennes, qui aujourd'hui survivent. Il y a beaucoup de suicides dans l'agriculture, on ne le dit peut-être pas assez. Donc, ils vont obligatoirement disparaître. Ça, c'est obligatoire. Tout à l'heure, vous avez fait allusion aux AOC ou aux AOP, hein, qui vont être protégés. Le gouvernement a dit dans son plan, disait rectificatif un petit peu, ou complémentaire pour le CETA, que les
indications d'origine contrôlée.
Merci. D'origine contrôlée, les anciens AOC seraient protégés. On a, je crois, une centaine, un peu plus de 100 pour l'Europe, une quarantaine pour la France, mais rien que pour la France, Il en existe aujourd'hui plus de 100, hein, je crois que ça tourne autour de plus de 150. Quoi. Donc si on en protège 40, ça veut dire qu'il y en a une centaine qui passe à la trappe. Et on sait que ces protections au niveau international sont très difficiles à maintenir et à appliquer. On a tous entendu parler du champagne espagnol, du jambon d'Ost en France qui concurrence l'Italie.
Ça finalement le risque, c'est d'avoir presque un camembert canadien qui respecte pas du tout les règles du camembert comme on l'entend ici.
Voilà, et le gouvernement dit mais on va renforcer les contrôles, alors qu'on voit partout les contrôleurs diminuer pour des raisons budgétaires, hein, les contrôleurs officiels, que ce soit chez les vétérinaires, que ce soit chez les financiers, etc. Donc les contrôles qui sont déjà pas faciles en France, sur le plan international, pratiquement, quand on voit les millions de tonnes de business qui se passent dans tous les sens, puis on voit régulièrement tous les scandales qui arrivent. Quoi.
Le collectif national Stop CETA et le collectif Nord-Isère veulent interpeller les décideurs. Est-ce que les citoyens peuvent agir, eux aussi, dans cette démarche ?
Oui, bien sûr. Alors voilà, ça on cible aujourd'hui parce qu'il y a urgence, hein, il y a le feu dans la demeure, les députés, les sénateurs, mais depuis l'origine, depuis maintenant 4 ans, on travaille bien sûr sur le plan public. On est allé pratiquement dans beaucoup de petites communes, de villes, on en est je crois une trentaine de soirées débat qui rassemblent pas les grandes foules mais qui petit à petit informent. Ça avait commencé avec la campagne électorale des municipales. Quand on proposait dans les débats publics, hein, les réunions publiques, les listes, qu'elles soient de droite ou de gauche, nous disaient « Ah ben oui, ça peut être intéressant, on ne connaît pas le problème, donc venez nous en parler ». Ça avait démarré un peu comme ça. Et puis ensuite, effectivement, pourquoi ? Parce que l'opinion publique, qui a très peu de moyens d'action, on redit chaque fois qu'il y a des associations, et dans les collectifs, on a le choix des associations, et puis il y a des actions individuelles. On peut connaître certains élus, on peut intervenir sur le plan des organisations professionnelles, hein, des syndicats patronaux, des syndicats ouvriers, etc. etc.
quoi. Concrètement, aujourd'hui, un citoyen qui se dit « j'ai quand même envie de me mobiliser », quelle alternative il a ? Comment est-ce qu'il peut faire ?
On leur propose différents modèles de lettres à adresser aux parlementaires et aux chambres de commerce, en fait tout ce qui peut influencer les parlementaires eux-mêmes, mais des modèles de lettres un peu différents parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des opposants au traité aussi bien dans tous les partis politiques, mais chaque fois pour des raisons différentes. Donc on propose des modèles de lettres différents selon la couleur du parlementaire auquel ils peuvent écrire. Et sur notre site de attaque-ni.bourbre.org, on a mis un lien vers la page du collectif national qui donne la démarche détaillée et les modèles de lettres à envoyer aux députés, aux sénateurs, et les modèles de lettres envoyés également aux associations agricoles, de PME, d'artisans, etc., qui peuvent, eux, de leur côté aussi, s'ils ne connaissent pas trop le problème, déjà le découvrir et être influents auprès des élus pour faire un poids supplémentaire en plus de celui des citoyens.
On a déjà mis sur le site un modèle de courrier avec les coordonnées des élus par mail ou par
pour l'Isère.
Postal, pour l'Isère, hein, on parle pour l'Isère. On va continuer à mettre à jour pour effectivement, soit par des liens, comme dit Dominique, avec les sites nationaux, soit par compléter notre site. Voilà, on n'est pas des pros pour les sites et on a des fois un peu de mal à mettre à jour. Mais voilà, on va progresser. Les citoyens ont plus de pouvoir qu'il n'y paraît. En général, on dit « Ah, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre coin ?» etc. Et on se rend compte que des fois, il faut peu de choses, des fois une poignée de personnes, et qu'après, le nombre compte quand même beaucoup, que ce soit par pétition, que ce soit par courrier, que ce soit par renforcement des organisations. Oui, les citoyens ont finalement plus de pouvoir qu'ils ne croient en général.
Et il ne reste plus beaucoup de temps.
Il y a urgence, oui, c'est ça.
Merci beaucoup Dominique Pommier et Raymond Marion.
Merci beaucoup, merci. Au plaisir.